Un martini et de la glace. Que demander de mieux, hein, franchement. Ah, bordel. Putain, comment il fait chaud. J'étais en Thaïlande l'autre jour, dans ma résidence secondaire. Et bon, je me dis, on étouffe ici. Je vais aller un petit peu au Luxembourg, il doit faire plus frais. Puis là, voilà que j'arrive, et c'est tout l'inverse. Il fait peut-être même encore plus chaud ici qu'en Thaïlande. Hein. C'est dire un peu si je ferais bien de m'acheter une autre résidence en Antarctique. Mais bref, voilà, donc... Excusez-moi, je m'assieds. Voilà. Alors donc, oui, excusez-moi si vous entendez un bruit bizarre hein, dans le micro. En fait, c'est parce que voilà, j'ai mis le ventilateur. Hein. Je crois que je vais le couper parce que ça doit sûrement faire un bruit assez embêtant. Hein, donc voilà, je vais le couper. Et sinon, bon, bah, je l'ai pas fait les deux autres fois, mais je crois que je vais quand même cette fois, voilà, couper pour mettre le générique. Hein, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette fascinante histoire de Christine et de sa poule. Hein. Allez, à tout de suite. Hein. Christine, planquée derrière un gros chêne, et non seulement gros mais énorme parce que il était moult fois centenaire, mais c'est une autre histoire.
Oui, chacun la sienne, merde.
Observait sa poule qui se trouvait non loin de là, quelques mètres seulement, à presque à portée de main, si tant est qu'elle avait une main qui se trouvait au bout d'un bras qui faisait plusieurs mètres, mais c'est aussi une autre histoire. Et elle observait donc sa poule qui se trouvait là, immobile, stoïque, comme attendant, sachant que sa maîtresse était là et qu'elle allait sortir à un moment ou un autre de sa cachette pour venir l'attraper, mais néanmoins, elle ne se montrant point troublée par ses fait. Christine s'en trouva fortement déconcertée parce que ce genre de comportement était totalement inhabituel chez un volatile normalement stupide et très con. Il y a pas d'autre mot parce que bon, une poule finalement ça se contente de manger et de pondre et de dormir et parfois de chier quand ça y pense. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu des poules comme c'est con hein, parce que vous leur balancez, imaginez un groupe de poules, vous balancez plein de tranches de pain partout hein, dans toute la masse, hein, y en a partout, elles commencent à picorer, puis y en a une qui prend une tranche pour s'éloigner avec, et ben elles vont toutes la suivre. Alors qu'elles en ont toutes à leurs pieds, non, c'est cette tranche-là qu'il leur faut. Vous voyez un petit peu le niveau. Hein. Alors une poule qui reste aussi stoïque, aussi droite et aussi voilà, impressionnante, ben c'est pas normal. Hein, donc on peut comprendre notre pauvre Christine, je vous demanderai de pas trop la juger sévèrement, s'il vous plaît. Et donc, pour en revenir à elle, elle était là donc, cachée derrière son gros chêne, comme j'ai dit au début, scrutant sa poule, attendant le bon moment pour l'attraper en surgissant d'un coup, en hurlant un cri de guerre et en agitant les bras comme une forcenée pour mieux l'impressionner, la pétrifier de manière à lui éviter de penser à l'idée peut-être de se sauver directement, ce qui compliquerait légèrement les choses. Soudain, la poule regarda dans une direction qui s'avérait être la direction absolument opposée à celle de l'endroit où se trouvait Christine. Elle se dit que le moment était venu et elle bondit d'un saut, mais là silencieusement parce que finalement elle préféra sur l'instant consacrer son énergie à sa vélocité plutôt qu'à faire un cri impressionnant qui n'aurait pas servi à grand chose étant donné que la poule regardait ailleurs. Et donc elle fonça vers sa poule et lorsque ses mains voulurent l'attraper, elles se refermèrent sur du vide. En effet, à son grand étonnement, bien que la poule se trouvait face à elle, Christine venait de palper du vide, de l'immatériel. Sa poule était là, mais n'y était pas physiquement. Qu'est-ce que c'était que ça? Elle réussit à l'attraper par le cou, mais sa main traversa le cou comme celui d'un fantôme ou d'une créature holographique, allez savoir. Toujours est-il que dans les deux cas, c'est extrêmement inquiétant et inhabituel comme situation, non? Christine recula d'un pas, complètement interloquée, éperluée, muette devant ce qui lui arrivait, elle ne comprenait rien. Elle regardait la poule qui, à présent, si tant est que c'était toujours une poule ou juste l'image d'une poule, allez savoir, qui regardait à présent en direction de Christine de son regard vide de toute forme d'intelligence, enfin un regard de poule. Qu'est-ce que vous voulez qu'une poule exprime une expression? Ça a toujours le même regard ahuri, hein? Alors moi je veux bien, mais je peux pas faire autrement que vous dire qu'elle le regarde d'un air bête, hein? Bon, enfin. Elle la regarde, c'est déjà ça, ça met quand même de l'intrigue. Parce qu'une poule, ça vous dévisage pas normalement. Bah là, si. Voilà, ça fait peur, hein. Mais bref, la suite après la pause.
En guise d'entracte, nous vous offrons ce magnifique débat d'intellectuels.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bonsoir à mes invités.
bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et le thème de notre émission d'aujourd'hui sera une créature mythologique, n'est-ce pas? En la personne, enfin, c'est tant qu'on puisse dire que c'est une personne. Oui, en l'occurrence, il s'agira du centaure. Hein. Alors, messieurs, que pouvons-nous dire sur cet animal, hein?
Eh bien, écoutez, avant toute chose, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse d'un animal, puisque la créature en question ne l'est qu'à moitié.
Tout à fait, de par la partie inférieure du bas du corps, hein.
Oui, voilà, absolument. Et cela, d'ailleurs, entraîne un questionnement assez pointu et sur ce, quant à sa morphologie, on va dire, interne.
Tout à fait, parce qu'en l'occurrence, voyez-vous, dans mon centre d'études, une question se pose couramment au sujet des centaures, c'est que on se demande si finalement ces créatures ne sont pas semi-scatophages, voyez-vous.
Ah ben, développer un peu, ça a l'air intéressant.
Eh bien, voyez-vous, si nous prenons un centaure tout à fait ordinaire, comme il en poussait des myriades dans la Grèce antique, et vous pourrez constater donc que la forme standard de ces créatures, c'est d'avoir donc une moitié de corps d'homme perché sur un corps de cheval à la place de la tête de l'animal. Hein. Et cela nous fait nous demander des choses quelque peu... voilà, comment dire ça?
C'est au sujet du système digestif, en l'occurrence.
Oui, voilà, tout à fait, c'est le terme que je cherchais, enfin, digestif entre autres, hein, parce que finalement, lorsqu'on regarde sa morphologie, on pourrait se demander, mais finalement, lorsque le centaure mange quelque chose, bon, c'est digéré par son système digestif, évidemment, mais le système digestif humain, voyez-vous, lorsqu'il a terminé son travail, la merde, elle a encore un long trajet à parcourir jusqu'à la sortie extérieure. Hein.
Oui, voilà, tout à fait.
Voilà, donc la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que la merde en elle-même n'est pas redigérée de surcroît ensuite par le système digestif chevalin de la créature, hein, ce qui est parfaitement absurde en soi. Mais, ou alors, autre hypothèse serait qu'un seul système digestif existe dans la créature. Par exemple, on pourrait croire que c'est le système digestif chevalin. Et alors, donc, c'est-à-dire que le ventre humain ne comporterait qu'un long œsophage qui mènerait jusque-là, ce qui est parfaitement ridicule. C'est une aberration naturelle. Hein.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ces créatures ont disparu, finalement. Parce que, je veux dire, un tel micmac gastrique, c'est contre nature.
Tout à fait, je vous l'accorde.
S'il vous plaît, revenons-en à notre histoire. Maintenant, ça va bien. Hein. Ah, j'ai trouvé une autre utilité à mon verre de martini, moi. Christine, donc, fut complètement mais abasourdie par cette étrange expérience qu'elle venait de vivre à l'instant dans ce petit bois. En effet, cette poule qui se tenait là, donc, face à elle, et qui était complètement mais impalpable, immatérielle, ça l'étonnait énormément. En y regardant plus près, elle vit que, de part et d'autre de cet animal qui se tenait face à elle, semblait circuler comme des rayons lumineux, ce qui était étonnant. Enfin, je veux dire, l'endroit était plutôt sombre, hein, en plein dans un bois touffu, et là, il y avait comme des rayons lumineux qui ne semblaient pas vraiment, finalement, émaner de la poule, mais comme arriver sur elle, c'était bizarre. Elle regardait autour d'elle, en hauteur, au niveau de la cime des arbres, et là, elle découvrit quelque chose d'assez incroyable. En effet, il y avait plusieurs, rayons lumineux, enfin, des rayons du soleil qui traversaient les feuillages, et qui tous... convergeait vers l'emplacement où se trouvait la poule. Et en fronçant un peu les yeux, en faisant un peu la mise au point, elle remarqua qu'en fait, à travers certaines feuilles, il y avait eu comme des petits trous, comme des petits coups de bec, des petits picorements dans les feuilles, afin que c'était vraiment incroyable, elle n'en revenait pas, mais vous vous rendez compte, afin que la lumière traversant ces feuilles dessine une poule holographique à l'endroit où les rayons convergeaient. C'était absolument mais incroyable, d'autant plus qu'à l'époque, ce genre de technologie, on était loin de l'imaginer. Hein. Alors bon, avec en plus, c'était strictement génial, le fait que le très léger vent qu'il y avait ce jour-là faisait bouger légèrement les feuilles et donnait l'impression que la poule était vivante et bougeait légèrement, c'était incroyable. Christine, en un sens rassurée parce qu'elle comprit que le phénomène était finalement... bien qu'extraordinaire, naturel, on s'amusait encore à passer quelques fois la main dans cette poule impalpable, à la fois admirative, étonnée, et en même temps déçue, parce que ça l'avançait pas trop dans la quête de récupération de sa poule. C'était embêtant, hein, vous en conviendrez. Mais soudain, un choc violent prit notre amie Christine en plein dans le dos et elle la fit trébucher. C'était en effet la poule Joséphine qui tout en poussant un hurlement belliqueux, venait de sauter de toutes ses forces, aidée à grands coups d'ailes, brassant l'air, s'est jetée contre Christine pour la faire tomber, ce qu'elle réussit à faire. D'ailleurs, la pauvre Christine venait de tomber dans un gros buisson de ronces et d'orties. Je vous dis pas la douleur à la chute. Hein. Christine, tout étourdie, se releva, enfin, elle se releva elle, parce que bon, ses vêtements pris dans les épines des ronces eurent plutôt eux tendance à rester là où ils étaient. Et là, elle regarda vers sa poule d'un air vengeur, hein, et vraiment renfrogné, hein, parce que la pauvre bête, hein, elle savait pas un petit peu quel mauvais quart d'heure Christine avait envie de lui faire passer sur le moment. Et c'est alors que Christine remarqua sa poule, elle avait commencé à pousser un cri, mais un cri très bizarre pour une poule. C'est étonnant, on aurait dit comme un signal qu'elle lançait à quelqu'un. Mais à qui donc ? Ce n'est qu'une poule, elle ne peut pas communiquer, enfin. Et c'est alors qu'à ce moment-là, une vive douleur prit notre amie Christine à la poitrine. En effet, une espèce de longue et fine, mais en même temps très solide, appendice à l'apparence végétale venait de fendre l'air derrière elle, de lui transpercer le dos jusqu'à l'avant de la poitrine, violemment, et provoquant ainsi une gigantesque douleur à la pauvre jeune fille. Le bout de cet appendice, qui était ressorti donc sur le devant, pile poil entre ses deux jolis seins, s'ouvrit d'un coup et en sortit plusieurs petits tentacules qui s'étalèrent le long de son corps comme des doigts prenant prise sur elle. Elle en était d'ailleurs terrifiée, complètement interloquée, enfin, jusqu'à ce que l'un des doigts en question descende un peu plus bas et il la caressait, enfin, bien malgré lui, hein, ne sachant pas vraiment où il allait, dans l'entrejambe. Elle en fut sur le moment assez satisfaite, dans la mesure où cela changeait un petit peu du bout du manche de son balai, un petit peu sakirèche. Enfin, en disant qu'elle l'aurait pu apprécier l'instant dans des circonstances un peu moins douloureuses et terrifiantes.
Ça se discute quand même.
Inutile de vous dire que, sous le coup de la douleur, évidemment, notre amie Christine poussa un cri absolument désespéré, plein de souffrance et de désespoir qui s'entendit à l'horizon dans tous les environs et dans presque toute la région. D'ailleurs, même ses voisins l'entendirent.
Elle aussi, tel père, telle fille.
Ouais, bah bien fait pour cette sale exploiteuse, ça lui apprendra à esclavagiser des pauvres poules. Ah bah tiens, bah je vais aller la libérer. Allez, sortez les poules, vous êtes libres. Bah, sortez, vous êtes libres, c'est une bonne nouvelle, allez, rouste ! Ingrate.
Mais revenons à notre pauvre éleveuse en péril. Vous l'aurez sans doute deviné, cet appendice n'était rien d'autre qu'une langue rétractable d'Asinus comedenti, l'une de ces fleurs préhistoriques, ces plantes carnivores vivant au fin fond de ce bois et adorant se repaître de chair humaine. Alors que les doigts tentaculaires de cette langue avaient trouvé prise sur le corps de Christine, la dite langue commença à se rétracter vers l'arrière, tirant Christine vers le fin fond de ces bois obscurs. Celle-ci, sous la force, trébucha, finissant ainsi de se départir de ses vêtements qui restèrent coincés dans les ronces. Et elle fut traînée sur le sol lentement vers le repère des Asinus. Juste à côté, toujours, se tenait Joséphine, notre amie, cette chère petite poule qui, témoin du spectacle, ne pouvait s'empêcher de ressentir une grande satisfaction. Car, voyez-vous, quelque temps plus tôt, par une nuit sombre et obscure, Joséphine, cette nuit-là, ne trouvait pas sommeil et décida de sortir de la cabane des poules pour aller picorer quelques grains qui pouvaient éventuellement rester sur le sol à l'intérieur de l'enclos. C'est alors qu'une fois dehors, elle vit une étrange silhouette se balader dans le jardin, dans la propriété de la ferme de notre amie Christine, tournant autour de la maison, et puis... Lorsqu'elle vit la poule, la silhouette s'approcha. Un peu conne sur les bords quand même, Joséphine se contenta de rester là, en caquetant, en voyant la silhouette s'approcher, sans trop vraiment réagir. Hein. En même temps, elle avait pas grand-chose à faire, elle est dans l'enclos, où est-ce qu'elle aurait pu aller ? La silhouette s'approcha et s'avéra être la reine Asinus, toujours déguisée en humaine, dans sa toge rouge, encapuchonnée avec juste son étrange nez crochu dépassant. Comme quoi les légendes disaient peut-être pas tout à fait faux, hein, au niveau des créatures qui erraient dans les bois. L'Asinus aurait aimé se faire le plaisir de dévorer Christine et de ramener les restes à ses amis Asinus, mais bien que doués d'une grande force et d'une grande intelligence, nos amis plantes carnivores préhistoriques n'étaient jamais que des êtres végétaux, et donc pas spécialement robustes et absolument pas enclins à défoncer une porte ou une fenêtre afin de pouvoir s'introduire de nuit dans une ferme. Non, non, non. Aussi, la pauvre fleur se trouvait complètement bloquée.
Merde.
Alors qu'elle voyait cette poule devant elle, elle se dit que ça pourrait faire un repas de consolation, mais notre amie Joséphine n'était pas aussi stupide qu'on l'eût cru, car oui, les hasards de la génétique pouvaient faire qu'à l'occasion naisse une poule douée d'une intelligence qu'on ne pouvait sous-estimer. Et c'était le cas de Joséphine. Aussi, celle-ci pacta-t-elle avec la plante, lui promettant de, dès le lendemain, lui ramener en offrande sa maîtresse si elle la laissait sortir du poulailler afin qu'elle puisse préparer un plan qu'elle avait déjà d'ailleurs concocté depuis longtemps, un soir où elle rêvassait à la méthode d'exterminer sa maîtresse, car oui, les poules n'aimaient pas spécialement Christine, qui, à leur goût, les nourrissait trop peu. Mais bon, évidemment, une poule ne pensant qu'à manger, c'est un petit peu difficile de les contenter. Parce que sinon, il faudrait leur donner de la bouffe tout le temps. Et vous voyez planté là, en plein milieu de poulailler, avec un grand panier sous le bras, à balancer une poignée de grains toutes les 15 secondes, 24 heures sur 24, eh ben non. Même un chinois, il ferait pas un boulot pareil. Excusez-moi. Alors donc, le plan, maintenant, non seulement exécuté, mais complètement réussi, venait de d'atteindre son apothéose. Hein. Notre amie Christine était donc toujours tractée par la langue d'Asinus, balayant le sol de son petit corps nu. Et, et alors qu'elle était là complètement agonisante et donc tirée jusqu'à sa fin funeste, un autre protagoniste fit son apparition. Il s'agissait d'un ours, un beau mâle viril et robuste, un beau plantigrade qui passait par là et qui ne put s'empêcher de remarquer notre amie Christine dans sa position pour le moins humiliante et surtout désespérée. Et l'ours s'en approcha, à petit trot quand même, parce qu'il fallait qu'il puisse rattraper Christine, qui, je vous le rappelle, était mobile, car toujours tirée par l'appendice végétal. Hein. Et notre ours, d'un grand coup de gueule, au sens littéral du terme, se saisit de la tête de notre amie Christine et l'arracha d'un coup sec, la tuant sur le coup. Car oui, il s'agissait de cet ours qui, quelques matins plus tôt, s'était déjà repu de la même manière, d'une tête d'un certain jeune garçon boucher, hein, et une bonne tête humaine croustillante ayant fait son festin, l'ours s'était trouvé là une nouvelle marotte et il était ravi d'avoir pu réitérer l'opération et s'allécher la tête en bouche, la mâchouillant goulûment, il s'éloigna absolument heureux. Comme quoi un ours et une poule ont quand même été heureux dans cette histoire malgré que notre amie Christine ait trouvé une mort cruelle. Et donc, quelques secondes plus tard, le corps décapité de Christine arriva dans la clairière des Asinus où celles-ci se partagèrent et le dévorèrent lui aussi goulûment, voilà, comme quoi tout le monde est heureux, hein, et à notre amie Joséphine, maintenant complètement libre, hein, de pouvoir vivre sa vie pleinement, hein, comme le fit sa mère, elle aussi très intelligente, 10 ans plus tôt, après s'être débarrassée du père de Christine, hein, dans des circonstances étranges.
Moralité de l'histoire.
Galinacé pour aujourd'hui.